Oblomov, chapitre 11. Dans la maison, le silence se rompt peu à peu. Une porte a crié dans un coin, des pas ont retenti dans la cour, dans le fenil, quelqu'un a éternué. Bientôt, de la cuisine, un domestique, pliant sous le poids, apporte précipitamment une immense bouilloire. On commence à se réunir pour le thé. L'un a la face gonflée et les yeux gros de larmes, l'autre, à dormir sur la joue et les tempes, a gagné une tache rouge. Un troisième n'a pas encore recouvré sa voix naturelle. Tout ce monde renifle, soupire, bâille, se gratte la tête et se détire en reprenant ses esprits, non sans peine. Le dîner et le sommeil ont amené une soif inextinguible. Le gosier est brûlant. On boit une douzaine de tasses de thé, mais le remède est sans force. On entend des soupirs, des gémissements. On a recours à l'eau des rêles rouges, aux poirées, aux coisses et quelques-uns aux drogues d'apothicaire. Tout cela pour humecter la gorge desséchée. Tous cherchent à se délivrer de la soif comme d'un fléau de Dieu. Tous s'agitent, tous languissent, absolument comme une caravane de voyageurs qui ne peuvent trouver une source d'eau dans les déserts de l'Arabie. L'enfant est là, auprès de sa maman. Il regarde les physionomies étranges qui l'entourent. Il écoute attentivement les conversations lourdes et endormies. Ce spectacle l'amuse, et les niaiseries qu'il entend lui semblent curieuses. Après le thé, chacun s'occupe à quelque chose. L'un s'en va vers le ruisseau et flâne lentement sur le bord, poussant du pied les petits cailloux dans l'eau. Un autre s'assied à la croisée et suit des yeux les scènes fugitives qui se produisent devant lui. Un chat traverse-t-il la cour? Une corneille passe-t-elle en volant? L'observateur conduit l'un et l'autre de son œil et de son nez, tournant la tête tantôt à droite, tantôt à gauche. Ainsi, quelquefois, les chiens aiment à se tenir des journées entières à la fenêtre, le museau au soleil, et suivant chaque passant d'un regard attentif. La mère s'empare de la tête du petit Élie, la pose sur ses genoux et lui peigne lentement les cheveux, admirant leur souplesse et forçant Nastasia Ivanovna et Stepanida Tikhovna à les admirer. Elle devise avec elle de l'avenir de son Élie et en fait le héros de quelque épopée brillante de son invention. Celle-ci lui présage monts et merveilles. Mais voici venir le crépuscule. À la cuisine, de nouveau pétille le feu. De nouveau retentit le bruit cadencé des couteaux. Le souper se prépare. La livrée s'est rassemblée devant la porte cochère. Là, on entend la balalaïka et les éclats de rire. Les gens jouent au gorelki. Cependant, le soleil descendait derrière la forêt. Il jetait encore quelques rayons à peine chauds qui pénétraient en bandes de feu à travers les arbres et versaient des flots d'or sur les cimes des pins. Ces rayons s'éteignirent les uns après les autres. Le dernier resta longtemps, puis il s'enfonça comme une mince aiguille dans le fourré des branches et s'éteignit aussi. Les objets perdirent leur forme. Tout se confondit dans une masse d'abord grise, puis foncée. Le chant des oiseaux faiblit par degrés. Bientôt, ils se turent tout à fait. Excepté un seul qui s'obstina, et, comme en dépit des autres, au milieu du silence général, fit entendre par intervalles son gazouillement monotone, mais toujours de plus en plus rare. Lui aussi émit enfin un faible et sourd sifflement, agita une dernière fois ses plumes, remua légèrement les feuilles autour de lui, et s'endormit. Tout se tut. Les seuls grillons faisaient du fracas à qui mieux mieux. De la terre s'élevèrent de blanches vapeurs qui s'étalèrent sur la prairie et la rivière. La rivière aussi s'apaisa. Un peu plus tard, chez elle, tout à coup, on battit au silo pour la dernière fois. Et elle se tut immobile. On sentait que l'air devenait humide. Il faisait de plus en plus sombre. Les arbres se groupèrent en forme de monstres. La forêt se remplit d'épouvante. Soudain, on entendit un craquement, comme si un monstre avait passé d'un endroit à l'autre. On eût dit que c'était une branche morte qui craquait sous son pied. Au ciel scintilla, brillante comme un œil vivant, la première petite étoile, et dans les croisées de la maison s'allumèrent de petites flammes. Arriva l'heure du silence général, solennel de la nature. L'heure où l'intelligence créatrice travaille plus fortement, où les méditations poétiques bouillonnent plus chaudes, quand la passion flamboie plus vive au cœur, quand l'angoisse est plus douloureuse, quand une âme féroce mûrit plus tranquillement et plus énergiquement le germe d'une pensée criminelle, et quand, à Oblomovka, tout se repose si bien et si paisiblement. « Allons nous promener, maman, » dit le petit Élie.
« Qu'est-ce qui te prend? Dieu te bénisse, nous promener maintenant, » répond-elle.
« Il fait humide, tu refroidiras tes petits pieds, et il y a du danger à cette heure-ci. Le satyre erre dans la forêt, il emporte les petits-enfants. » « Où les emporte-t-il? Comment est-il? Où demeure-t-il ? » demande l'enfant. Et la mère donnait l'essor à sa fantaisie sans frein. L'enfant l'écoutait, ouvrant et fermant les yeux, jusqu'à ce qu'enfin le sommeil vint le terrasser tout à fait. Arrivait alors la bonne, qui le prenait des genoux de la mère et l'emportait au lit, dormant déjà, et la tête penchée par-dessus son épaule.
Voilà donc la journée finie, et grâce à Dieu, nous l'avons passée heureuse.
Disaient les Oblomovtsi, en se détirant et en faisant le signe de la croix avant de se coucher.
Puisse la journée de demain lui ressembler. Gloire au Seigneur Dieu, gloire au Seigneur Dieu.
Oblomov fut ensuite transporté par son rêve à une autre époque. Pendant une interminable soirée d'hiver, l'enfant se serre contre sa bonne. Et elle lui parle à l'oreille d'une contrée inconnue où il n'y a point de nuit ni de gelée, où tous les jours s'accomplissent des miracles, où coulent des rivières de lait et d'hydromel, où personne ne fait rien la ronde année, mais où toute la sainte journée des cavaliers élégants, semblables à Monsieur Élie, se promènent avec de belles dames qu'on ne saurait dépeindre dans un conte ni décrire avec une plume. Là, vit aussi une fée bienfaisante, qui apparaît quelquefois sous la forme d'un brochet, qui se choisit un favori, doux, simple, autrement dit, un fainéant que tout le monde houspille, mais qu'en revanche elle comble, on ne sait pourquoi, de mille biens. Lui ne fait que manger et s'affubler d'un habit préparé tout exprès. Ensuite, il épouse une beauté incomparable, Militrissa Kirbitievna. Les oreilles et les yeux largement ouverts, l'enfant buvait avidement ce récit. La bonne, ou plutôt la tradition, évitait avec tant d'art de représenter les choses telles qu'elles sont, qu'une fois imbues de ces fictions, l'imagination et la raison devaient rester leurs esclaves jusqu'à la vieillesse. La bonne récitait naïvement le conte de Yémélia le Niais, cette maligne et mordante satire de nos aïeux, et peut-être aussi de nous-mêmes. Élie apprendra un jour qu'il ne coule point de rivière de lait ni d'hydromel, qu'il n'existe point de fées. Il se moquera en souriant des histoires de nourrices. Mais ce sourire ne sera point sincère, il sera accompagné d'un soupir secret. Le conte se sera fondu chez lui avec sa vie. Et sans en avoir conscience, il s'attristera parfois et se demandera pourquoi la fiction n'est point la vie
et la vie la fiction. Involontairement, il rêvera à Militrissa Kirbitievna. Il se sentira toujours attiré vers cette contrée où l'on ne fait que se promener, où il n'y a ni soucis ni chagrin. Il lui restera toujours un penchant à s'allonger sur un tiède poêle, à se pavaner dans l'habit tout prêt, acquis sans travail, à se régaler au compte de la bonne fée. Le vieil Oblomov, le père du vieil Oblomov, dans leur enfance, avait entendu tout au long ces contes, dont l'antique tradition, par la bouche des bonnes et des menins, a traversé les générations et les siècles. La vieille, cependant, déroulait déjà un autre tableau devant l'imagination de l'enfant. Elle lui racontait les exploits de nos Achilles et de nos Ulysses, l'intrépidité d'Élie Mouroumets, de Dobrynia Nikititch, d'Alyosha le fils du prêtre, de Polkan le héros, de Koletchich le passant, leur pérégrination à travers la Russie, comme quoi ils ont massacré d'innombrables légions d'infidèles, comme quoi ils se sont défiés à qui avalerait d'un trait et sans reprendre haleine une coupe de verte eau-de-vie. Ensuite, elle parlait de féroces brigands, de jeunes princesses dormantes, de villes et de gens pétrifiés. Enfin, elle passait à notre démonologie, aux revenants, monstres et aux loups-garous. Avec la simplicité et la naïveté d'Homère, avec la même vérité palpitante de vie dans les détails, le même relief dans les tableaux, elle inculquait à la mémoire et à l'imagination de l'enfant l'Iliade de la Virus, créée par nos homérides dans ces temps brumeux où l'homme ne s'était point encore familiarisé avec les embûches et les mystères de la nature et de la vie, où il tremblait devant le loup-garou et le satyre, où il cherchait auprès d'Alyosha, le fils du prêtre, une protection contre les périls qui l'entouraient, où dans l'air et dans l'eau, dans la forêt et dans les champs, tout était merveille. Terrible et incertaine était alors la vie de l'homme. Il y avait danger pour lui à franchir le seuil de sa maison. À tout moment, il risquait d'être éventré par la bête fauve, ou égorgé par le brigand, ou dépouillé par le cruel tatar. Un homme, alors, pouvait disparaître sans bruit et sans laisser de traces. Tantôt apparaissaient dans les cieux des météores, des colonnes et des globes de feu. Tantôt, au-dessus de la tombe fraîche, s'allumait une petite flamme. Dans la forêt, quelqu'un se promenait comme avec une lanterne. Il éclatait d'un rire affreux et ses yeux flamboyaient dans les ténèbres. Chez l'homme lui-même, il se produisait tant de phénomènes incompréhensibles. L'un vivait tranquille, et sans que rien lui arrivât, tout à coup, il commentait à débiter des choses incohérentes, ou à crier d'une autre voix que la sienne, ou à se promener la nuit en dormant. Un autre, sans cause aucune, se mettait à faire des contorsions et à se rouler par terre. Et justement, avant cela, une poule avait chanté comme un coq. Un corbeau avait croassé au-dessus du toit. L'homme faible se perdait dans ce chaos, et regardant autour de lui avec terreur, il cherchait dans l'imagination la clé des mystères de la nature et de sa propre existence. Peut-être aussi que ce sommeil, ce calme éternel d'une vie nonchalante, et l'absence de tout mouvement, de toute véritable éventualité d'aventure et de danger, poussait l'homme à créer, au sein du monde réel, un autre monde impossible, à laisser vaguer et se divertir son imagination oisive, et à expliquer les circonstances habituelles de la vie par des causes tout à fait étrangères à la nature de ces phénomènes. C'est à tâtons que vivaient nos pauvres aïeux. Ils ne mettaient pas de frein à la satisfaction de leurs désirs. Ensuite, ils s'émerveillaient naïvement ou s'effrayaient du mal produit, et en cherchaient l'explication dans les muets et obscurs hiéroglyphes de la nature. La mort leur venait de ce qu'un défunt était sorti la tête et non les pieds devant. L'incendie, de ce qu'un chien avait hurlé trois nuits sous les fenêtres. On prenait garde que le défunt passât la porte les pieds devant. Mais on ne changeait pas de régime, On n'en mangeait pas moins et on dormait comme auparavant sur la terre nue. On rossait ou l'on chassait de la maison le chien qui avait hurlé. Mais on n'en secouait pas moins dans la fente du plancher pourri les étincelles des petits morceaux de bois qui servent de chandelles. Aujourd'hui encore, le moujik, au sein de la réalité sévère et peu poétique où il vit, aime à croire aux récits séduisants du bon vieux temps, et de longtemps peut-être il ne renoncera à ses naïves croyances. En écoutant les contes de la lionne sur l'oiseau de feu, notre toison d'or, sur les obstacles et les oubliettes du château enchanté, tantôt l'enfant souffrait des échecs du chevalier, tantôt il s'enflammait, se figurant être le héros de l'héroïque aventure. Et il sentait des frissons lui courir dans le dos. Un récit suivait l'autre. La bonne contait d'une façon pittoresque, avec entrain, avec ardeur, quelquefois avec inspiration, parce qu'elle-même croyait à moitié à ses histoires. Les regards de la vieille étincelaient. Sa tête branlait d'émotion. Sa voix montait jusqu'à des notes inaccoutumées. Saisi d'une terreur inconnue, l'enfant se serrait contre elle, les larmes aux yeux. S'agissait-il des revenants qui se lèvent à minuit des tombeaux, ou des victimes qui languissent dans les cachots du monstre, ou de l'ours à la jambe de bois qui parcourt les paroisses et les villages à la recherche de sa patte coupée, les cheveux de l'enfant se dressaient d'horreur. Son imagination naissante tantôt se glaçait et tantôt bouillonnait comme un cratère. Il éprouvait une sensation à la fois agréable et douloureuse. Ses nerfs se tendaient comme des cordes. Quand, d'une voix lugubre, la bonne répétait les paroles de l'ours. « Crie, crie, jambes de tilleul, j'ai traversé les paroisses, j'ai traversé les hameaux. Toutes les femmes dorment, une seule femme ne dort point. Elle est accroupie sur ma peau, elle cuit ma chair, elle file ma laine, etc. » Quand l'ours entrait enfin dans l'isba et était prêt de saisir le ravisseur de sa jambe, l'enfant n'en pouvait plus d'effroi. Il se jetait, tremblant et criant, dans les bras de sa bonne. Ses larmes jaillissaient d'épouvante, et en même temps il riait de joie à l'idée de n'être point entre les griffes de la bête, mais sur le poil auprès de sa bonne. L'imagination du petit garçon se peupla de fantômes étranges. La mélancolie et la peur se nichèrent pour longtemps, peut-être pour toujours, dans son âme. Il jeta autour de lui un regard triste, et n'aperçut dans la vie que méchanceté et malheur. Il rêva à cette contrée enchanteresse, où il n'y avait ni mal, ni souci, ni douleur, où résidait Militrissa Kirbitievna, où l'on se nourrissait si bien, et où l'on était habillé à si bon marché. À Oblomovka, ce n'est pas seulement sur les enfants, mais encore sur les grandes personnes que les contes exercent leur influence, et cette influence dure jusqu'à la fin de la vie. Dans la maison, depuis le barin et sa femme jusqu'au robuste forgeron Taras, durant la sombre soirée, tout le monde a peur de quelque chose. Chaque arbre se transforme alors en géant, chaque buisson devient un coupe-gorge de brigands. Le bruit d'un volet et le hurlement du vent dans la cheminée font pâlir hommes, femmes et enfants. Le jour des rois, personne, après 10 heures du soir, ne franchirait tout seul la porte cochère. Personne, la nuit de Pâques, n'oserait aller à l'écurie, de crainte d'y rencontrer le lutin. À Oblomovka, on croit à tout, aux loups-garous et aux revenants. Comptez-leur qu'une meule de foin danse dans les champs. Ils le croiront sans réflexion. Si quelqu'un fait circuler le bruit que ce bélier n'est point un bélier, mais quelque chose d'autre, ou bien qu'une nommée Marthe ou Stépanide est sorcière, ils ont peur et du bélier et de Marthe. Et il ne leur vient pas en tête de demander pourquoi le bélier n'est plus un bélier, ni pourquoi Marthe est devenue sorcière. Il ferait même un mauvais parti à celui qui s'aviserait d'en douter. Tant est profonde à Oblomovka la foi au merveilleux. Élie verra plus tard que le monde est arrangé plus simplement, que les morts ne se lèvent point de leur tombe, que quand on trouve des géants, on les met dans une baraque, et les brigands en prison. Mais si la foi même dans les fantômes se perd, il n'en reste pas moins un fond de crainte et de mélancolie dont on ne peut se rendre compte. Élie apprendra que les monstres ne font guère de mal. Le mal qui existe, il le connaîtra à peine. Et pourtant, à chaque pas, il s'attendra à quelque chose d'horrible, il tremblera. Et maintenant encore, s'il se trouve dans une chambre obscure, ou en présence d'un cadavre, il frémit sous l'impression d'une crainte sinistre, dont le germe a été déposé dans son âme à l'époque de son enfance. Le matin, il rit de ses terreurs. Il en pâlira le soir.
Oblomov, chapitre 12.
Élie rêva ensuite qu'il était arrivé tout à coup à l'âge de 13 ou 14 ans. Il étudiait déjà dans le bourg de Verkliovo, à 5 verstes d'Oblomovka, chez l'intendant de l'endroit, l'allemand Stolz, qui venait d'ouvrir un petit pensionnat pour les enfants des gentilshommes du voisinage. André, le fils de Stolz, était presque du même âge qu'Oblomov, et il y avait de plus un enfant qui n'étudiait presque pas et qui souffrait des scrofules. Ce garçon avait passé toute son enfance avec des bandeaux sur les oreilles et sur les yeux. Il pleurait en cachette de n'être plus chez la grand-maman, mais dans une maison étrangère, parmi des scélérats, où il n'y avait personne pour lui faire une caresse et personne pour lui cuire le gâteau préféré. C'était là, en attendant les seuls élèves du pensionnat. Bien malgré eux, le père et la mère mirent l'enfant gâté en pension. Ce fut une occasion de larmes, de cris, de caprices. Enfin, on emmena le petit Élie. L'Allemand était un homme positif et sévère, comme sont presque tous les Allemands. Peut-être que le petit Élie aurait pu apprendre chez lui quelque chose à fond, si Oblomovka avait été à 500 verstes de Verkliovo. Mais comment apprendre? L'influence de l'atmosphère d'Oblomovka, de sa manière de vivre et de ses habitudes, s'étendait jusqu'à Verkliovo. Jadis, ce bourg était aussi une Oblomovka. Là, excepté la maison de Stolz, tout sentait encore la paresse primordiale, la simplicité des mœurs, la quiétude et l'immobilité. L'esprit et le cœur de l'enfant s'étaient, avant qu'il eût vu le premier livre, rempli des tableaux de ses mœurs et de ses coutumes. Et qui sait à quel âge précoce se développent les germes dans une cervelle d'enfant? Comment saisir dans une âme tendre les impressions et les conceptions premières? Quand le petit être balbutie à peine les mots, ou même quand il ne les balbutie point encore, quand il ne marche pas encore, mais ne fait que regarder tout de ce regard fixe, muet, enfantin, que les grandes personnes nomment stupide, peut-être qu'il entrevoit et devine déjà le sens et le rapport des phénomènes qui l'entourent, mais dont il ne rend compte ni à lui-même ni aux autres. Peut-être que le petit Élie remarque, comprend déjà depuis longtemps ce qu'on dit et ce qu'on fait en sa présence. Il remarque donc que son père, en pantalon de velours de coton et en jaquette ouatée de drap marron, ne fait toute la sainte journée que se promener de long en large, les mains croisées derrière le dos, briser et se moucher. Que sa mère passe du café au thé, du thé au dîner. Qu'il ne vient jamais dans la tête de son père de vérifier combien on a fauché ou moissonné de meules, ni de punir une négligence grave. Mais que si on ne lui apporte pas sur le champ son mouchoir de poche, il crie au désordre et met la maison sans dessus-dessous. Peut-être son intelligence enfantine avait depuis longtemps décidé que c'était ainsi et non d'une autre façon qu'il fallait vivre, comme vivaient autour de lui les grandes personnes. Et comment auriez-vous pu exiger de lui qu'il pensât autrement ?
« Comment vivait-on à Oblomovka ? »
se demandait-on à Oblomovka. « Pourquoi la vie nous est donnée ? Dieu le sait. » Et comment répondait-on à cette question ? Probablement qu'on n'y répondait pas, tant cela paraissait simple et clair. Jamais on n'avait entendu parler de cette vie qu'on dit pleine de labeur, de ces gens qui portent dans leur sein des soucis rongeurs, qui vont dans un but quelconque d'un bout à l'autre de la terre, ou qui vouent leur existence à un travail incessant, éternel. Les Oblomovtsi croyaient médiocrement aux troubles de l'âme. Ils ne considéraient pas la vie comme un mouvement perpétuel de désir et de tendance vers quelque chose. Ils craignaient à l'égal de la peste l'emportement des passions. Ailleurs, le feu de l'âme consume rapidement le corps. À Oblomovka, l'âme se noyait paisiblement, sans résistance, dans un corps amolli. La vie ne marquait pas les Oblomovtsi comme d'autres de rides précoces, ni de traces d'infirmité morale. Les bonnes gens ne la comprenaient pas autrement que comme l'idéal de la quiétude et de l'inaction. Interrompue quelquefois par divers accidents, tels que les maladies, les pertes, les querelles, et entre autres, le travail. Ils subissaient le travail comme une sorte de châtiment imposé à nos pères. Mais ils ne pouvaient l'aimer, et toutes les fois qu'ils en avaient l'occasion, ils s'en exemptaient, trouvant la paresse naturelle et même obligatoire. Jamais ils ne se tourmentaient d'un problème obscur, intellectuel ou moral. C'est pourquoi ils florissaient toujours de santé et de gaieté. C'est pourquoi ils vivaient si longtemps. Les hommes à 40 ans ressemblaient à des jeunes gens. Les vieillards ne se débattaient point contre une mort pénible, douloureuse. Mais après avoir vécu jusqu'à un âge impossible, ils mouraient comme en cachette. Ils se refroidissaient imperceptiblement et exhalaient leur dernier soupir. Aussi dit-on qu'autrefois, le peuple était plus robuste. Oui, en effet, plus robuste. Autrefois, on ne se dépêchait point d'expliquer à l'enfant le sens de la vie et de l'y préparer comme à quelque chose de difficile et de sérieux. On ne le faisait point pâlir sur des livres qui soulèvent des milliers de questions. Or, les questions rongent l'intelligence et le cœur et abrègent la vie. Le patron de la vie avait été transmis par les parents. Ceux-ci l'avaient reçu aussi tout fait du grand-père, le grand-père de l'aïeul, avec ordre de le maintenir entier et inaltérable comme le feu de Vesta. C'est ainsi que la chose se pratiqua sous les aïeux et les pères, ainsi qu'elle se fit au temps du père d'Élie. Ainsi peut-être se fait-elle encore de notre temps à Oblomovka. De quoi pouvait-il donc se préoccuper ? À quoi rêver ? De quoi s'émouvoir ? Qu'avaient-ils à apprendre ? Quel but à atteindre ? Ils n'avaient besoin de rien. Pareil à une rivière paisible, la vie coulait à leurs pieds. Ils n'avaient qu'à rester tranquilles sur le bord de cette rivière et à observer les phénomènes inévitables, qui, tour à tour, sans être évoqués, apparaissaient devant chacun d'eux. L'imagination d'Élie endormie commença aussi à lui retracer tour à tour, comme des tableaux vivants, d'abord les trois principaux actes de la vie, qui s'étaient joués aussi bien dans sa propre famille que chez les parents et les amis, la naissance, le mariage et l'enterrement. Ensuite se déroula une série bariolée de scènes gaies ou tristes. Les baptêmes, les fêtes de chacun des membres, les fêtes de famille, le dernier jour gras avant et le premier après chaque carême, les repas bruyants, les réunions de parents, les discours, les félicitations, les larmes et les sourires officiels. Tout cela s'exécutait avec précision, majesté, solennité. Oblomov revit même, dans les diverses cérémonies religieuses, les figurants connus avec le jeu de leur physionomie, leurs gestes, leur empressement et leur importance. Confiez-leur la demande en mariage la plus délicate, l'organisation de quelques noces pompeuses ou de quelques fêtes à souhaiter, ils l'exécuteront dans les règles et sans rien omettre. La place que chacun devait occuper, quel devait être le régal, la manière de le servir, la distribution et le rang des personnages pendant la cérémonie, les présages à observer, dans toutes ces formalités, personne à Oblomovka ne fit jamais la moindre faute d'étiquette. Les Oblomovtsi seraient capables de nier le printemps. Ils ne voudraient pas le reconnaître s'ils ne mangeaient point d'alouettes à son arrivée. Comment auraient-ils manqué à toutes ces coutumes? C'est là qu'est leur vie et leur science. C'est là que sont toutes leurs peines et toutes leurs joies. C'est pour cela qu'ils chassent loin d'eux tout souci et tout chagrin. Ils ne connaissent point d'autre plaisir. Leur vie fourmille de ces événements fondamentaux et inévitables qui suffisent à remplir leur esprit et leur cœur. Ils attendent avec émotion une cérémonie, un festin. Mais après avoir baptisé, marié ou enterré un homme, ils oublient l'homme lui-même et sa destinée, et se replongent dans leur apathie habituelle, dont les fait sortir un événement semblable, un jour de fête, un mariage, etc. Croyez-vous qu'on ne sache pas bien soigner les enfants là-bas? Il ne faut qu'un coup d'œil pour voir quels poupons roses et pesants les mères y portent ou promènent avec elles. Leur principale préoccupation est de voir leur baby gros, blanc et bienvenant. Dès qu'il leur naît un enfant, le premier souci des parents est d'accomplir sur lui, de la manière la plus précise, sans aucune omission, toutes les pratiques exigées par les convenances, c'est-à-dire de faire un festin à la suite du baptême, après quoi commencent pour l'enfant les soins les plus attentifs. La mère pose à elle-même et à la bonne le problème suivant. Élever un marmot bien portant, le garder du froid, du mauvais œil et des autres influences malignes. Toutes deux se dévouent à ce que l'enfant soit toujours gai et mange beaucoup. Aussitôt qu'on parvient à mettre le petit gars sur pied, c'est-à-dire quand il n'a plus besoin de sa bonne, que dans le cœur de la mère se glisse furtivement le désir de lui trouver une compagne assortie, aussi rose, aussi bien portante, alors arrive l'époque des cérémonies religieuses, des festins et enfin de la noce. Et c'est là-dedans que se concentrent toutes les émotions de la vie. Ensuite, on recommence à tourner dans le même cercle. La naissance des enfants, les cérémonies, les festins, jusqu'à ce que l'enterrement change les décors, mais pas pour longtemps. Les hommes cèdent la place à d'autres, les enfants deviennent des jeunes gens, et en même temps des fiancés. Ils se marient et multiplient, et la vie s'étend suivant ce programme, comme un tissu sans fin qui s'effile insensiblement et se rompt au bord de la tombe. Parfois, il est vrai, d'autres embarras venaient les importuner. Mais presque toujours, les Oblomovtsi les voyaient arriver avec un calme stoïque. Et les soucis, après avoir tourbillonné au-dessus de leur tête, passaient outre et s'envolaient comme les oiseaux, qui, en venant à un mur nu et ne trouvant où se nicher, battent inutilement des ailes autour de la pierre et s'envolent. Ainsi, une fois, par exemple, une partie de la galerie s'écroula tout à coup et enterra sous ses débris une poule couveuse avec ses poussins. Axinia, la femme d'Antipe, avait été sur le point de se mettre sous la galerie avec sa quenouille. Elle en aurait eu sa part. Mais à ce moment, pour son bonheur, elle était allée chercher du lin. Toute la maison fut en émoi. Tous accoururent, petits et grands, et furent saisis d'effroi, en se disant qu'au lieu de la poule couveuse avec les poussins, aurait pu se promener là madame avec monsieur Élie. Tous poussèrent des cris d'étonnement et commencèrent à se faire des reproches mutuels.
Depuis longtemps, n'aurait-il pas dû leur venir en tête, à l'un de rappeler, à l'autre de faire réparer, et au troisième de réparer la galerie? Tout le monde s'étonna que la galerie fût tombée, et la veille, on s'étonnait qu'elle pût tenir si longtemps. Alors, ce furent des commentaires et des explications sans fin sur la manière de réparer la chose. On plaignit la poule couveuse et ses poussins, et lentement on se dispersa chacun de son côté, après avoir sévèrement défendu de conduire M. Élie près de la galerie. 3 semaines après, pour débarrasser le chemin, on donna ordre à Andriniushka, à Petrushka et à Vaseka de traîner vers les hangars les planches et les garde-fous tombés. Ils y restèrent jusqu'au printemps. Chaque fois que le vieux Oblomov les voyait de sa croisée, il se troublait l'esprit des réparations à faire. Il appelait le charpentier et lui demandait conseil. Que fallait-il faire? Construire une nouvelle galerie ou enlever le reste? Puis il le renvoyait. « Tu peux t'en aller, je verrai. » Cela continua jusqu'au jour où Vaseka ou Moteka vint faire aux barines le rapport suivant. À savoir que, le matin, quand lui, Moteka, avait grimpé sur les restes de la galerie, les coins s'étaient détaillés de la muraille et qu'il pouvait arriver un nouvel écroulement. Alors, on convoqua le charpentier pour un conseil définitif, à la suite duquel il fut décidé qu'en attendant, on étirait avec les débris la partie encore debout de la galerie, ce qui fut exécuté vers la fin du même mois. « Eh, la galerie pourra encore aller comme neuve !» dit le vieux à sa femme. « Regarde avec quelle élégance Théodote a rangé les poutres. On dirait les colonnes de chez le maréchal de la noblesse. Allons, maintenant c'est bien. Cela ira encore longtemps. » Quelqu'un lui rappela qu'il serait à propos de réparer aussi la porte cochère et le perron. « Sans cela, dit-il, non seulement les chats, mais encore les cochons s'introduiront dans la cave à travers les degrés. » « Oui, oui, c'est nécessaire, répondit M. Élie père, d'un air soucieux. Et tout de suite, il examina le perron. « En effet, vois-tu comme cela s'est tout à fait disloqué ? » dit-il. Et des pieds, il balançait le perron comme un berceau. « Mais il branlait déjà le jour où il a été construit, » fit observer quelqu'un. « Et qu'est-ce que cela fait qu'il branla ? » demanda Oblomov. « Il ne s'est tout de même pas écroulé, quoique depuis 16 ans on n'y ait pas touché. Luka l'avait très bien construit dans le temps. Voilà un charpentier, un vrai charpentier. Il est mort. Que Dieu ait pitié de son âme. De nos jours, on s'est gâté, on ne fera plus si bien. » Et il dirigea ses yeux ailleurs. « Et le perron branle, dit-on, encore maintenant. Et il ne s'est tout de même pas encore écroulé. Il faut croire qu'en effet, ce Luka était un fameux charpentier. » Rendons pourtant justice au maître de la maison. Parfois, à propos d'un accident ou d'une incommodité, il s'inquiète fort et même s'échauffe et se fâche. « Comment ? » disent-ils. « Peut-on négliger ou abandonner telle ou telle chose? Il faut tout de suite prendre des mesures. » Et l'on ne parle que de réparer le petit pont du fossé, ou d'enclore le jardin à certains endroits, afin que le bétail n'abîme point les arbres, parce qu'une partie de la haie de branchage est tout à fait couchée par terre. Monsieur Élie père étendit ses soins si avant qu'un jour qu'il se promenait dans le jardin, de ses propres mains, il souleva la haie avec effort et ordonna au jardinier de placer vite 2 perches. La haie, grâce à cet acte de vigueur, resta debout tout l'été, et ce ne fut qu'en hiver que la neige la renversa de nouveau. Enfin, on poussa la sollicitude jusqu'à mettre sur le petit pont 3 planches neuves, aussitôt après qu'Antip eut dégringolé dans le fossé avec cheval et tonneau. Il n'était pas encore guéri de sa contusion que déjà ce petit pont était rétabli.
Les vaches et les chèvres non plus ne gagnèrent pas beaucoup à la nouvelle chute de la haie. Elles n'avaient tondu que les groseilliers. Elles commençaient, tout au plus, à écorcer le dixième tilleul, et n'étaient pas encore arrivées au pommier. Quand vint l'ordre d'enfoncer la haie en terre et même de l'entourer d'un petit fossé. Et elles eurent leur compte, les deux vaches et la chèvre qu'on attrapa sur le fait. On leur frotta d'importance les côtes à coups de bâton.